Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour une nouvelle émission. Pour introduire le débat, je vais vous parler de la ZAD du Carnet. Depuis le dernier week-end du mois d'août, une ZAD, une zone à défendre, s'est installée sur les berges de l'estuaire de la Loire pour s'opposer au projet de parc d'activité écotechnologique qui consiste en l'extension du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire sur 110 des 395 hectares, excusez-moi, de la zone naturelle. Cet espace est une zone humide riche en biodiversité et abritant 116 espèces protégées. Ce sujet est la transition parfaite pour notre thème du débat du jour, l'économie et l'environnement. On se posait la question de est-ce que l'économie est compatible avec la protection de l'environnement ? Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec Zoé.
Bonjour.
Mathis.
Salut.
Sarah Florentine.
Bonjour.
Victoire.
Bonjour.
Et Cyril.
Coucou. Et du coup, Pauline, pour présenter le débat.
Zoé va commencer par nous introduire le mot environnement et elle rentrera dans le débat. À ton tour, Zoé.
Donc l'environnement, c'est un tout nouveau concept, enfin c'est un concept assez récent dans nos sociétés. L'environnement, il regroupe beaucoup d'enjeux fondamentaux et multiples sur Terre. Et en fait, le plus gros problème de l'environnement, et je pense que on est tous au courant ici, c'est le réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique, c'est dû à l'effet de serre, les gaz qui s'introduisent à cause des activités de l'homme. Et ces activités de l'homme sont néfastes pour la planète. Donc les climatologues et les scientifiques sont nombreux à partager les mêmes inquiétudes concernant l'avenir de la planète et des générations futures. Si le réchauffement climatique actuel n'est pas maîtrisé, les catastrophes climatiques seraient ainsi plus nombreuses avec l'accroissement des températures globales de la planète. Les conditions de vie des générations à venir seront également bouleversées si le réchauffement persiste. Et plusieurs spécialistes avancent ainsi de nombreuses hypothèses pouvant se présenter en cas d'augmentation des températures terrestres. Donc il pourrait y avoir des fortes chaleurs qui provoqueraient aussi des feux de forêt, comme on a pu voir le cas en Australie en 2019, je crois que c'était en hiver. Il peut y avoir aussi la fonte des glaces, donc la montée des eaux, et aussi les rendements, tout ce qui est l'agriculture, du coup, ça serait moins productif et il y aurait une malnutrition plus importante sur Terre, car nous sommes de plus en plus nombreux à y vivre, et ça augmente fortement. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul problème au niveau de l'environnement, de l'écologie. À cause aussi d'un problème économique, c'est le gros problème, et des mentalités des humains. Pour sauver l'humanité, il faudrait changer le problème économique et l'état d'esprit des hommes. Voilà, je te laisse la parole pour lui.
Du coup, pour commencer le débat, est-ce que pour vous, le développement économique, il est compatible avec la protection de l'environnement ? Cyril, je te laisse la parole.
Donc, on peut penser avant tout que développer économiquement, souvent, ça se fait par la destruction de l'environnement, comme dans beaucoup d'endroits différents. Donc, c'est sûr que quand on détruit l'environnement, que j'arrive pas à très bien formuler, mais pour dire que plus on fera de destruction d'environnement, j'ai l'impression que plus il y a de bénéfices, parce que par exemple, avec les énergies fossiles, etc. Et donc, pour une montée économique vraiment élevée, c'est sûr que la protection de l'environnement, c'est compliqué. Après, je pense qu'on peut réguler cette montée économique pour la mettre en lien avec la protection de l'environnement et faire un équilibrage entre les deux. Parce que c'est sûr que je trouve ça, pour l'instant, en tout cas pour le moment, compliqué de faire en sorte que ça soit 100% de la protection environnementale. Parce qu'actuellement, si on passe d'un coup à 100% de protection environnementale, l'économie, elle ne va pas tenir. Donc, je vous laisse continuer le débat, mais c'était mon avis pour introduire le sujet.
Sarah, tu veux réagir ?
Oui, absolument. Donc, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Cyril. Donc, tu penses que il faudrait un peu un entre-deux entre la croissance économique et la croissance écologique. Donc,
c'est exact.
Donc, je suis pas du tout d'accord. J'ai un avis beaucoup plus extrême. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, oui, je suis d'accord dans le sens où effectivement, ce serait l'idéal, mais je pense que c'est un idéal qui n'est pas possible. C'est-à-dire que on ne peut pas penser à l'écologie, on ne peut pas penser à l'environnement dans la société actuelle. Parce que effectivement, donc, comme l'a dit Zoé dans la présentation, on est dans une crise climatique. Donc je trouvais aussi intéressant que tu aies parlé au futur. Moi, j'aurais parlé au présent, parce que actuellement, c'est catastrophique. Il y a les glaciers qui fondent, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Voilà, c'est vraiment une urgence. Et l'urgence, c'est que la société change. Parce que finalement, on a conscience du problème aujourd'hui. On sait qu'on doit agir, mais on n'agit pas parce que la société n'est pas faite pour ça. Du coup, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Cyril.
Mathis, à toi.
Donc, moi, je suis plus en accord avec Cyril qu'avec Sarah. Parce que, simple question, mais c'est bien beau de dire « oui, il faut totalement se consacrer à la préservation de l'environnement ». Mais après, comment est-ce qu'on mange, quoi ? Enfin, c'est comme ça. Parce que l'économie, c'est quand même le, entre guillemets, le maître du monde, dans un sens positif comme négatif. Donc, je veux dire, si on délaisse totalement l'économie qui a été construite depuis des centaines d'années, je veux dire, un choc aussi brutal, c'est pas viable, quoi. Donc, je suis plus d'accord avec Cyril dans le fait qu'il faut que ce soit progressif. Et malgré tout, durant ces dernières années, il y a des progrès qui ont été faits par rapport à plusieurs dizaines d'années en arrière. Donc, tout n'est pas acheté dans la société d'aujourd'hui, mais il faut encore pousser les efforts et essayer de combiner les deux, quoi. Parce que, je veux dire, l'un n'est pas viable, mais l'autre seul ne l'est pas non plus. Donc, il faut que les autres, que les deux se combinent pour arriver à un monde meilleur.
Zoé, à ton tour.
Alors moi, je suis plus d'accord avec Sarah Florentine. Enfin, moi, je suis plus extrême aussi parce que c'est un cas d'urgence. Mais je tiens à préciser que, je pense que vous le savez, c'est ce problème d'environnement. Déjà, l'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un concept très récent. C'est-à-dire avant, on n'en parlait pas. Et pour moi, en fait, ces problèmes-là, dans l'écologie, dans l'environnement sur Terre, c'est dû aussi à la révolution industrielle de l'époque. En fait, je fais des cours de géopolitique au lycée et on est en train de voir à peu près ce problème-là. Donc, en fait, la révolution industrielle, elle a un peu empoisonné nos santé. Et à l'époque, je pense qu'ils n'ont pas forcément... Enfin, je pense qu'ils parlaient un peu de pollution avec les usines, mais ils ne voyaient que l'aspect sur les hommes, tout ça. Mais il faut vraiment... c'est à partir de ce moment-là que même l'eau, elle a été polluée, ça a commencé. Enfin, l'industrialisation, il y a eu des rejets de projets chimiques. Et en fait, cette révolution industrielle, elle n'a pas cessé, elle n'a jamais cessé. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais ça continue. Et moi, personnellement, à part notre génération peut-être à nous... Mais même il y a des personnes un peu plus âgées que nous, les choses ne changent pas, même à la tête des pays, tout ça, ça change pas, les machines, tout ça, c'est pas très écolo, et même au niveau financièrement, c'est assez compliqué sur Terre, on est en pleine crise du Covid-19, donc en soi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je trouve ça très compliqué en ce moment, même s'il faut changer les mentalités, derrière, il faut avoir les moyens et c'est pas forcément facile.
Victoire, est-ce que tu es d'accord avec tout ça ?
Alors moi, je suis d'accord avec un petit peu tout le monde, même si je trouve que comme ce que Sarah Florentine a dit, ce qu'elle pense, c'est un petit peu, dans le cas extrémiste, et un peu utopique, parce qu'on ne pourrait pas changer du jour au lendemain. Enfin, dans 5 ans, là, on ne pourrait pas, par exemple, arrêter la production de trop grands trucs qui polluent la Terre. Je pense que c'est totalement impossible parce qu'on n'est pas du tout prêt. Par contre, je vous rejoins sur un point que nous, en tant que petit être humain sur la Terre, même si on n'est pas beaucoup, même si juste un être humain, ça vaut rien comparé aux 7 milliards qu'on est, je pense que si on commence à faire, nous, des petits efforts, on achète du bio, ou alors on trie bien ses poubelles, on éteint l'eau quand on prend une douche, pareil pour se brosser les dents, c'est des petits trucs cons, mais je pense que si on démarre par là, ça pourrait un petit peu aider la situation dans laquelle on est, qui est déjà un petit peu quand même très catastrophique. Je ne pense pas qu'on pourrait changer du jour au lendemain tout ça. Je pense que ça pourrait prendre au moins une bonne dizaine d'années avec les chefs d'État qui devraient, je sais pas si ça se dit, mais qui devraient ramasser des fonds pour avoir assez de, comment dire, assez de recul si on arrête tout, en sachant que arrêter tout ce sera pas possible. Mais donc voilà, c'est un petit peu utopique, je trouve, de se dire que demain on pourra changer la révolution industrielle et pouvoir révolutionner un petit peu le monde et protéger la Terre, sauver la Terre, parce que je pense que dans tous les cas on est un petit peu foutu. Donc, mais on peut au moins essayer. Je pense que de nous, de nos petits êtres humains, je pense qu'on peut chacun faire un petit effort qui n'aura pas forcément de grandes conséquences. Mais si on s'y met tous ensemble, ça en aura.
Sarah, sans vouloir intervenir, à ton tour.
Donc, effectivement, j'aimerais répondre un peu à ce qui a été dit. Donc, je suis d'accord avec toi, Victoire, sur le fait que c'est utopique. Donc, je ne pense pas qu'on puisse changer la société du jour au lendemain. C'est impossible, c'est sûr. Par contre, je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites. Parce que, comme tu dis, je trouve que tu as été un peu légère, la manière de le dire, c'est vraiment une urgence. Et ça, Zoé, tu as bien insisté dessus. Donc, il y a des choses qui doivent être faites. Donc, dans le sens, dans ce que vous disiez, Mathis et Cyril, on devrait essayer de trouver un peu un entre-deux entre notre société et le changement climatique. Et Mathis, tu t'ajoutais qu'il y a des choses qui étaient faites ces dernières années. Effectivement, j'ai envie de prendre l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'imagine. Donc, les 150 citoyens qui ont été élus pour chercher des solutions pour la planète et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est très bien. Et Emmanuel Macron a assuré qu'il accepterait ce qui allait être proposé par cette convention. Or, plus on avance, plus Emmanuel Macron s'éloigne de sa promesse. Et c'est ça, en fait, que je reproche. C'est qu'il y a des choses qui sont faites. Et en fait, au fur et à mesure, la société et les dirigeants s'éloignent des objectifs qui se fixent eux-mêmes. Et du coup, on n'avance pas. Et du coup, l'urgence continue et la crise continue. Et donc, c'est vraiment contre ça que j'ai envie de lutter. Et c'est pour ça que je dis que la société actuelle n'est pas compatible avec la crise économique. Donc, je pense vraiment que la progression et les choses qui sont faites actuellement ne sont pas suffisantes et qu'il faut on a besoin d'une réaction massive. C'est très bien que tout le monde achète bio, consomme moins d'eau, consomme des produits durables, etc. Mais je pense que quand on arrivera là, effectivement, ce sera une victoire. Mais là, on est très loin de ce compte et c'est pas sûr que les gens se décident d'agir et que la société change. Et donc, il faut vraiment appeler à un changement immédiat et important.
Cyril, à ton tour.
Alors, donc, je vais revenir sur tout ce qu'on a dit et avancer un peu mon argumentation. Donc, quand je vous disais que c'est sûr que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et ça, c'est certain, on est dans une urgence climatique, et ça, je le conçois totalement, que ce soit une urgence et que ça commence à devenir plutôt grave. Après, il ne faut pas se mentir, c'est les plus grosses sociétés au monde qui polluent. Donc, certes, c'est nous qui consommons, mais c'est aussi les plus grosses sociétés du monde qui polluent. Et donc, il faut changer nos habitudes de consommation, mais il faut aussi essayer de faire changer les habitudes, les modes de production des grosses sociétés. Après, on est aussi dans une ère qui utilise beaucoup la technologie. Donc, on peut, par exemple, revenir au fait que là, on est en Teams, on est en train de faire quelque chose à distance et que la technologie est de plus en plus présente. Et la technologie, c'est quelque chose qui pollue énormément, que ce soit par l'exploitation des minéraux, de tout ça, des matériaux, la production, etc., le transport, et ça pollue énormément. Et donc, pour en venir au fait que ça paraît, comme disait Victoire, utopique de changer du jour au lendemain, alors que notre société se développe de plus en plus avec les technologies et tout ça, qui polluent un maximum. On a aussi les manières de jeter du jour au lendemain toutes les choses, la mode qui se change de plus en plus et les vêtements qui coûtent de moins en moins cher. Et du coup, on consomme encore plus et qui polluent encore plus, etc. Donc, ça paraît vraiment utopique de changer du jour au lendemain et de changer totalement l'économie qui régit le monde entier. Ce n'est même pas quelques pays, c'est vraiment le monde entier. Tous les pays sont dedans. Donc, ok, changer du jour au lendemain, oui, je veux bien. Mais après, il faut proposer des solutions. Il y en a, mais franchement, je doute que ça puisse se faire équitablement. Parce que, certes, les personnes qui sont les plus aisées vont pouvoir s'en sortir avec un changement comme ça. Mais les personnes qui sont en difficulté financière, je pense que ça peut être compliqué pour eux si l'économie venait à changer pour l'environnement. Donc c'est pour ça que je parle d'un équilibre qu'il faut trouver entre les deux, même si c'est une urgence à l'heure actuelle.
Mathis, à toi la parole.
Donc je vais essayer de répondre à Sarah et à Cyril en même temps. Je suis assez d'accord avec Cyril dans l'ensemble. Un point sur lequel je suis particulièrement d'accord, et bon, c'est pas vraiment une opinion, c'est juste un fait qui est triste, c'est que c'est souvent les populations les moins aisées et les plus pauvres qui sont impactées par le changement climatique et en même temps qui seraient impactées si on avait un changement trop brutal. Parce que les grandes entreprises qui polluent le plus, je suis d'accord aussi avec ça, elles emploient, les plus grandes entreprises emploient la plus grande partie des gens. Et donc si on... Imaginons dans un monde totalement utopique, on décide du jour au lendemain de fermer des grandes entreprises, usines, etc. parce qu'elles sont trop polluantes, et bien c'est des millions de gens au chômage. Bon, ça n'arrivera pas, mais c'est le cas. Pour en revenir à Sarah et à la Convention du climat de Macron, je suis d'accord que c'est pas suffisant tout ce qui est en place en ce moment, mais je trouve que l'idée est bonne de la Convention du climat, et je pense que tu l'as trouvée bonne aussi. Mais le problème, c'est qu'il n'aurait pas dû dire d'avance qu'il accepterait tout, parce que c'est impossible. Parce que la Convention, elle est faite de 150 personnes qui sont toutes aussi toutes plus utopiques les unes que les autres. Donc forcément, il y a des choses qui ne peuvent pas être appliquées à court terme, mais qui sont peut-être même inapplicables. J'ai pas connaissance des propositions qui ont été faites, mais en tant que chef de l'État, on ne peut pas dire oui à tout, parce que c'est quand même c'est une nation à gérer, donc on ne peut pas tout mettre de côté au profit d'un seul sujet.
Zoé, vas-y.
Alors, moi, je vais revenir un peu sur ce que Sarah Florentine elle avait dit tout à l'heure. Donc, tu sais, je vais te rappeler, quand tu as dit, je ne sais pas comment tu l'as dit précisément, mais tu as dit qu'il faut qu'on consomme moins d'eau, faut prendre des bonnes habitudes, tout ça, en gros. Enfin, je suis totalement d'accord. Par contre, je pense que, en fait, ça ne serait pas forcément possible, parce que rien que là, déjà, actuellement, on peut voir qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde. Et en fait, je voudrais prendre le cas du Moyen-Orient. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est à côté, c'est avec la Turquie, tout ça. Et en fait, là-bas, il y a beaucoup de conflits, avec des religions, des conflits pour des idéologies, c'est assez compliqué. Mais il y a surtout le problème avec, par exemple, je crois que c'est le pétrole. Ouais, c'est le pétrole. Et en fait, le Moyen-Orient, c'est l'une des premières ressources. Là-bas, il y a le pétrole dans le monde. Et j'en ai repensé. Je me suis dit, imaginons, on essaye d'économiser l'eau, tout ça. Et il y a beaucoup de pays comme ça qui sont en guerre parce que, je sais pas, il va y avoir un fleuve ou une rivière qui donne de l'eau, sauf que c'est sur le territoire d'un autre. Imaginons si on vient à économiser l'eau. Déjà que ces pays-là, ils ont pas beaucoup, pas beaucoup de richesses, pas beaucoup de quoi que ce soit. Et enfin, attendez, parce que je me perds un peu, mais en gros, ce que je veux dire, est-ce que pour vous, trouver des nouvelles méthodes pour régler le réchauffement climatique, pour faire en sorte que l'environnement, la planète aille mieux pour nos générations futures, est-ce que pour vous, il n'y aurait pas. Moi, je trouve ça impossible, parce que déjà, économiquement parlant, clairement, c'est pas possible. Il y aurait plein de guerres, il y aurait plein de conflits. Enfin, moi, je trouve ça un peu compliqué, quoi.
Sarah, à ton tour.
Donc, c'est intéressant, et donc je suis d'accord avec toi, Zoé. Mais je voulais aussi revenir sur ce qu'avaient dit Mathis et Cyril juste avant. Donc, je suis d'accord avec vous sur le fait que, effectivement, les entreprises qui polluent, c'est celles qui produisent le plus. Mais, et donc, si jamais elles devaient, par exemple, fermer parce qu'elles polluaient trop, effectivement, ce serait catastrophique pour les personnes qui y travaillent et qui ont besoin de ces salaires. De l'autre côté, je pense qu'il faut changer radicalement parce que, Cyril, tu disais que si les mentalités changeaient, je pense que tu disais quelque chose comme ça, si les mentalités changent, ce ne serait pas suffisant, c'est la société qui doit changer. Et je pense que c'est le changement de mentalité qui va faire ce changement de société. Parce que c'est toujours la question de l'offre et la demande. Moi, si je vais acheter plein de t-shirts ou de pantalons tous les mois dans une entreprise qui pollue énormément et qui fait travailler des salariés dans des conditions pas très bien, ça, je vais être responsable de cette pollution et de ces conditions misérables. Donc, ça va être moi qui vais être responsable. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Si du jour au lendemain, tout le monde s'arrêtait d'acheter des produits polluants, s'arrêtait de consommer beaucoup d'eau, s'arrêtait de consommer beaucoup d'électricité, eh ben, on pourrait tout de suite être dans une société plus durable. Et ça voudrait dire qu'on serait beaucoup moins dans une société de consommation. Et du coup, on en revient à la question de base. Est-ce que c'est possible de vivre dans la société actuelle, donc une société de consommation, et d'associer à ça une transition écologique? Et vraiment, je pense pas. Et je voulais ajouter une dernière chose concernant les personnes en difficulté qui sont le plus touchées par le changement écologique. Je voudrais prendre un exemple tout simple, c'est les passoires thermiques. C'est les maisons qui vont beaucoup chauffer et qui sont finalement pas bien isolées. Et du coup, les personnes qui vivent dans ces habitations, vont devoir produire beaucoup plus de... consommer beaucoup plus et ça va beaucoup plus polluer. Si l'État investissait pour isoler mieux ses habitations, ce serait bien pour les habitants qui devraient payer moins et ce serait un très grand pas également d'un point de vue écologique. Donc je pense qu'il y a vraiment des solutions qui existent et qui associent l'économie à l'écologie.
Merci beaucoup Sarah. Donc vous écoutez toujours l'Actuality 99.9 avec Apolline, Zoé, Cyril, Mathis, Sarah Florentine et Victoire. On enchaîne maintenant sur une autre question. Est-ce que vous croyez en une croissance verte? Cyril, à toi la parole.
Alors, une croissance verte, je pense, ça peut être possible, mais à l'heure actuelle, non. Je ne pense pas parce que la croissance actuelle est vraiment basée sur des choses qui sont polluantes, mais vraiment polluantes assez fortement. Et les choses qui ne polluent pas, sont pas forcément les choses qui font la plus grande croissance. On peut rien que prendre l'exemple du pétrole. Hein. C'est pas très vert et pourtant ça rapporte beaucoup. Donc voilà. Après, je n'ai pas vraiment beaucoup plus d'arguments sur le sujet. Je tiens à entendre les autres.
Mathis, à toi.
Bon, donc c'est très bien. Je voulais intervenir sur la question précédente, mais elle est en relation avec celle-là. Donc c'est très bien. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce qui est triste dans tout ce problème de prise de conscience de l'écologie, c'est que c'est vachement centré sur les pays occidentaux, donc en Europe et en Amérique du Nord, et que nous, notre croissance, elle croît toujours, mais elle est déjà faite. C'est-à-dire que par rapport aux 30 Glorieuses, c'est là où il y a eu le développement économique, etc., industriel, et c'est là où il y a eu beaucoup, beaucoup de pollution, la croissance était exponentielle. Bon, pas vraiment, mais on peut le voir comme ça. Et le truc complexe, c'est que maintenant, les pays qui sont dans l'équivalent de nos 30 Glorieuses, c'est les pays asiatiques, etc., qui n'étaient pas développés il y a quelques décennies et qui sont en fort, fort développement économique et industriel, et qui donc ont une croissance florissante. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'eux, ils sont un peu en retard, entre guillemets, ils n'ont pas cette prise de conscience écologique, et d'un certain point de vue, ce serait injuste de leur couper l'herbe sous le pied, entre guillemets, de leur dire, vous allez vous priver de votre croissance économique que nous, on a eu il y a quelques années, enfin, il y a des dizaines d'années, sous prétexte que maintenant que nous, on a commencé à polluer, on se rend compte que c'est plus bien. Et donc, il faut que tout le monde se mette sur un pied d'égalité. Donc, c'est ça qui est triste, parce que nous, on est déjà en train de se dire qu'il faut changer, mais d'autres pays sont encore en train de se dire que c'est la croissance, on va produire, et l'économie sera florissante. Donc, c'est assez difficile de collaborer, entre guillemets, avec ces pays-là, qui sont les grands pollueurs d'aujourd'hui, hein, la Chine, etc., parce qu'ils sont en grand développement. Donc, eux, ils n'ont clairement pas une croissance verte. Mais nous, en Europe, pour revenir à l'Europe, on tend vers une croissance verte. C'est encore un idéal, mais on fait ce qu'on peut pour y arriver. Je vais prendre un exemple, celui de la Nouvelle-Zélande. J'y suis allé pendant un an, il y a 2 ans maintenant. Et eux, ils sont un peu un exemple en la matière, c'est-à-dire que 100% de leur énergie consommée vient de sources renouvelables, donc majoritairement l'hydraulique, donc des barrages qui font tourner des turbines, etc. Mais quand on met ça en comparaison avec la France, par exemple, en Nouvelle-Zélande, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait rêver, ils ont une croissance verte, on peut dire ça, hein, parce qu'ils sont très écolos, ils n'ont pas de nucléaire, pas de centrale à charbon, etc. Mais le truc, c'est qu'ils sont 4 millions d'habitants en Nouvelle-Zélande pour une superficie un tout petit peu équivalente, plus ou moins, à celle de la France. Alors que nous, on est plus de 65 millions, donc forcément, c'est plus dur d'appliquer ce qu'ils font chez eux, chez nous. De plus, ils ont les reliefs et les rivières qui vont bien pour appliquer ce genre de méthode de production d'énergie. Donc, je pense qu'une croissance verte est possible, mais qu'elle doit être adaptée en fonction du pays où elle doit avoir lieu, parce que chaque pays n'a pas la chance, entre guillemets, ni les avantages de pouvoir facilement la mettre en place.
Zoé, vas-y.
Alors moi, je ne vais pas du tout reprendre ce que Mathis a dit, parce que je ne suis vraiment pas calée sur le sujet, mais tout ce que je voulais juste dire, pour moi, croissance verte, en fait, ça évoque un peu le développement durable. Mais est-ce que, quand on voit les conséquences aujourd'hui, est-ce que les trois piliers, je ne sais plus si quelqu'un peut le rappeler, je crois que c'est économique, social et environnemental. Ouais, je crois. Alors, est-ce que les trois piliers de ça, de ce développement, est-ce qu'ils ont vraiment été respectés jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que la croissance verte, du coup, elle serait efficace? Je ne pense pas. Enfin, je sais pas, je sais plus ce que c'était la question exacte, Apolline, mais voilà, je voulais juste te dire ça.
Donc, je rappelle la question, est-ce que vous croyez en une croissance verte? Victoire, est-ce que tu peux me donner ton avis?
Personnellement, non. Je n'y crois pas vraiment. Je pense que c'est possible, mais comme je ne suis pas sûre que l'humain pourrait réussir à faire autant d'efforts, pareil pour tout ce que ça va engendrer derrière, je ne pense pas non à un avenir. J'espère. Je croise les doigts, mais je ne crois pas en un avenir de croissance verte. Parce qu'on est trop flemmards, il y a trop d'économies pour l'instant, quelqu'un voudrait réagir.
Sarah, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, je veux bien. Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Victoire, mais je suis aussi d'accord avec ce qu'a dit Mathis. Donc, je pense que l'exemple de la Nouvelle-Zélande est parfait, parce que ça montre que c'est possible, et je reviens sur ce que tu disais, c'est une croissance qui doit s'adapter en fonction du pays, parce que tous les pays ne sont pas capables d'avoir une croissance verte, c'est ce que tu disais. Par contre, ce que tu disais concernant la transition économique dans les pays en développement ou dans les pays émergents par exemple, et tu disais que c'était surtout ces pays-là qui polluaient et qu'on ne pouvait pas leur demander de faire une croissance écologique pendant leur croissance économique, comme nous on l'avait déjà fait, c'est pas tout à fait juste. Je pense que ça montre justement, c'est à nous d'agir, parce que nous, ça fait longtemps que notre transition économique est passée. Et donc, tous les pays développés devraient être en train ou avoir fait leur transition écologique. Et puis, on ne fait pas grand-chose. On a fait des choses, on pollue certainement moins que la Chine, mais on ne fait pas beaucoup de choses pour l'écologie. Donc, j'ai envie de prendre l'exemple de la France et de l'Allemagne. C'est pas grand-chose, on parle pas de transition écologique, mais en Allemagne, ils trient beaucoup leurs déchets. En France, on fait pas grand-chose, par exemple, dans le tri des déchets. Il y a 2 poubelles, voilà, alors qu'on pourrait faire beaucoup plus de choses. Donc, nous, on est des pays développés, on a fait notre transition économique. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire notre transition écologique? C'est à nous d'agir, on a la possibilité, et pourtant, on fait rien. Et donc, c'est un peu ça que je reproche. Mais je suis d'accord avec ce que vous disiez. Une croissance verte en France par exemple, c'est compliqué, et donc ça dépend effectivement du pays, comme le disait Mathis.
Merci beaucoup Sarah, donc ça va être le mot de la fin que je vais laisser à Cyril.
Donc pour rajouter un argument, certes il y a des pays qui sont forcément verts, qui ont une croissance verte, Mais après, il faut savoir où est-ce qu'ils produisent leurs matières premières, etc. Et souvent, la production, par exemple, rien que des téléphones, se produit souvent à l'étranger et pas dans les pays occidentaux. Donc, c'est sûr que la croissance verte pour le monde entier, ça peut être compliqué. Après, c'est sûr qu'il y a des pays qui s'y arrivent, mais je trouve quand même ça compliqué d'arriver à une croissance verte pour le monde entier, parce qu'on devra toujours compter sur d'autres pays pour produire. Je te laisse, Sarah Florentine, rajouter quelque chose.
Oui, du coup, pour le mot de la fin, je voudrais ajouter que c'est notre futur. On est la génération nous sommes la génération qui devons agir. Et donc, c'est urgent. Donc, c'est à nous d'agir et on doit prendre conscience du problème et essayer de réagir le plus possible.
Merci à tous. Vous étiez sur Radio PFM 99.9 pour l'Actuali Team. Je remercie Cyril.
Oui, merci.
Zoé.
Au revoir.
Victoire.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
Mathis.
À la semaine prochaine.
Et Sarah Florentine.
Merci, au revoir.
C'était Apolline, au revoir à tous.